Jésus-Christ, qui se trouve en Matthieu 22, donc, est une parabole bien difficile. Parce qu'on y trouve des gens égorgés, on y trouve Dieu qui invite et qui finalement s'en prend à un pauvre hère qui avait été invité, qui n'avait rien demandé à personne d'ailleurs, et qui se fait mettre dehors tout simplement parce qu'il n'avait pas de bonne tenue à se mettre. Donc c'est bien difficile. Comme toute parabole, je vous décevrai peut-être, mais je ne vous donnerai pas l'explication qui permet d'éviter les problèmes. Parce qu'une parabole n'a jamais eu une explication. Une parabole, c'est une multitude de portes ouvertes vers des réflexions qui nous amènent vers des domaines inattendus, nouveaux, extraordinaires. Et donc une parabole, c'est un bouquet d'ouvertures. Je ne voudrais pas donc la refermer en quelque sorte en vous donnant une explication toute faite. Je vais plutôt vous en donner plusieurs. Tiens. En effet, comme beaucoup de textes, on peut lire cette parabole de plein de manières différentes. On peut en faire une lecture sociale, tout à fait athée, en disant finalement le roi, c'est ce qui représente la loi, la règle, l'organisation d'un pays. Et donc voilà, le roi, c'est la base de la société, et on voit donc une société qui propose à tout le monde de venir, et autrement dit, la seule question là, c'est d'accepter la loi. Soit on accepte la loi en venant dans les noces, soit on la refuse et on est exclu. Et on voit donc que finalement, l'exclusion, c'est avant tout de s'exclure soi-même en refusant de jouer le jeu, en quelque sorte, et d'entrer dans la salle de noces. Ça va même plus loin, puisque le personnage qui est entré et qui finalement se fera mettre dehors est mis dehors pour la simple raison qu'il n'a pas mis la même tenue que tout le monde. Et là encore, c'est assez intéressant. Et c'est quelque chose que l'on dit même, les éducateurs, vous savez, qui s'occupent des banlieues, etc., essayent d'apprendre cela comme étant la base fondamentale de la vie possible en société, c'est d'en respecter les codes. Et donc on accepte dans la société toutes sortes de gens, des bons et des mauvais, mais il y a un minimum de règles à respecter. Et si on ne respecte pas les codes, si on ne respecte pas un minimum les habitudes, finalement, les règles de base du vivre ensemble, alors on est condamné à être exclu de la société, on s'exclut soi-même. Et ça va même plus loin, puisqu'on voit que Dieu détruit la ville de ceux qui refusent les règles. Ça veut dire que si on refuse les règles, non seulement on est exclu de la société, mais on rend même toutes sortes de vies sociales impossibles. C'est pourquoi les villes sont détruites. Voilà, bonne explication, n'est-ce pas? On peut en trouver une autre, ce qui est peut-être plus souvent donné. C'est la lecture historique. Et on dit cette parabole, finalement, schématise l'histoire d'Israël et de l'avènement du christianisme. On a le roi qui arrive et qui veut inviter tout le monde au festin des noces de son propre fils, c'est-à-dire du Christ. Et il dit, voilà, je vous offre de vivre dans la plénitude de la présence du Christ. Alors il invite d'abord ceux pour qui ça a été préparé, c'est-à-dire le peuple élu, les Juifs. Mais voilà que les Juifs refusent d'entrer dans la joie de la communion avec le Christ. Alors le maître dit, bon, bah, puisqu'ils n'en veulent pas, je vais le donner aux autres. Et du coup, il ouvre le salut aux païens, aux gens qu'on rencontre dans les rues, c'est vous, c'est moi. Et ainsi, c'est, je dirais, l'exclusion du peuple juif qui refuse le Christ pour le donner aux païens, c'est-à-dire à tout le monde. Et on voit en passant les juifs à la base qui tuent les serviteurs du roi, comme on dit que le peuple juif a tué les prophètes qui étaient envoyés par Dieu. Et donc, c'est effectivement une image, en quelque sorte, qui explique qu'avec le Christ, Dieu ouvre l'économie du salut aux païens. Bon, personnellement, je trouve cette explication très désagréable et j'ai même eu du mal à vous la dire, parce que ça me gêne beaucoup. Cette espèce d'anti-judaïsme, pour ne pas dire d'antisémitisme, si cette parabole n'avait que pour sens de dire aux chrétiens, vous êtes les bons et vous avez de la chance parce que les juifs sont méchants, et à ce moment-là, que voudrait dire aussi ces punitions épouvantables que le roi fait subir à ceux qui ont refusé le Christ. Alors est-ce qu'effectivement Dieu prendrait les Juifs pour les brûler leur ville, les jeter dans les ténèbres, leur lier les mains et les pieds ou je ne sais quoi? Ça me semble quand même inassimilable entre nous. Entre nous, cette solution n'est certainement pas fausse, mais je ne vous, si c'était ça le sens, je ne vois pas bien ce qu'on pourrait en tirer aujourd'hui. Autre explication encore, c'est celle en fait que donnaient les pères de l'Église au début de notre ère chrétienne, et qui voyaient dans le banquet l'image de l'Église. L'Église. Et donc Dieu veut réunir son Église autour du Christ. Alors, qui peut faire partie de l'Église? A priori, ce seraient plutôt les bons, les gens bien, honnêtes, généreux, tous ceux qui respectent l'amour du prochain et tout ça. Donc a priori, c'est pour cela que c'est préparé. Mais on voit qu'il y a beaucoup de gens très bien qui, finalement, se fichent un peu de l'Église. Alors du coup, Dieu accueille dans son Église tout le monde, bons et mauvais. Il appelle plutôt tout le monde à en faire partie. Et on voit du coup que la condition pour faire partie de l'Église, c'est d'avoir entendu un appel et d'avoir accepté l'appel d'en faire partie. Cela veut dire que tout le monde peut en faire partie tant qu'il se sent appelé. Nous ne sommes donc pas dans l'idée que l'Église serait la communauté des purs, la communauté de ceux qui ont bien la foi, de ceux qui sont justes, de ceux qui sont bons. On ne fait pas une Église, je dirais, élitiste, qui serait uniquement composée des gens bien, entre guillemets. Mais l'Église, c'est la communauté de tous, bons et mauvais, qui simplement acceptent d'écouter l'appel de leur Dieu et qui acceptent d'y répondre. La seule condition, c'est d'accepter de revêtir le vêtement de noces. Et là, les pères de l'Église disent évidemment qu'il s'agit de la robe de baptême. Et donc voilà, le baptême vous est proposé, vous entrez dans l'Église, vous vous faites baptiser, et que vous soyez bon ou mauvais, vous y avez votre place. C'est pas mal. Simplement, en bon protestant, je n'ai pas une conception très élevée de l'Église. Et je ne crois pas que Dieu nous appelle à faire partie de l'Église. Je crois que Dieu nous appelle à faire partie, enfin, de l'Église invisible, de l'Église universelle, de la communauté des croyants, mais non pas d'une Église institutionnelle. Et donc, cette explication me met personnellement sur la voie de quelque chose qui dépasse la notion d'Église, qui est justement celle du royaume. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait d'être dans la plénitude de la relation avec son Dieu. Le fait de faire partie des... Alors, si j'avais vécu il y a 500 ans, je dis le fait d'être sauvé, le fait d'être dans la joie de Dieu, d'avoir la paix du Christ, d'être dans la plénitude, ou je pourrais dire d'une façon plus moderne, le fait de réussir sa vie, le fait de vivre dans la plénitude, d'être heureux, et tout ça. Alors, qui peut faire partie de ce royaume? Et qu'est-ce que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que c'est que d'être dans la présence de Dieu, dans la communion de Dieu? Qu'est-ce que c'est que d'accéder à cette dimension spirituelle représentée par ce banquet? Et là, j'y trouve quelque chose d'absolument extraordinaire, qui n'est pas unique dans l'Évangile, mais qui est là, en tout cas, présent. Première chose, le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple, le royaume de Dieu, c'est une fête. Le royaume de Dieu, c'est une joie. Et quand on dit que Dieu nous appelle à faire partie de son banquet, à faire partie de son royaume, c'est de faire partie d'une grande fête, d'une immense fête, où l'on boit, où l'on chante, où l'on danse, où l'on est heureux. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Parce que combien de fois on n'a pas dit, dans ces 2000 ans de prédication chrétienne, que pour se rapprocher de Dieu, il fallait s'imposer des règles, s'imposer des contraintes, se brimer, surtout ne pas être heureux. Et combien même Calvin n'a-t-il pas dit qu'il ne fallait pas danser, qu'il ne fallait pas trop boire, pas trop manger, pas rigoler, pas, etc. Eh bien, peut-être que Calvin pensait ça, mais notre Seigneur Jésus-Christ ne le pense pas, apparemment. Pour lui, le royaume, ça n'est pas une chose triste, ça n'est pas une assemblée de gens constipés, ça n'est pas un concile de gens préoccupés par des choses sérieuses, terrorisés par le fait de faire le mal, de pécher, de mal penser, de mal croire, mais c'est une gigantesque grande fête. Et ça, c'est quand même merveilleux, c'est extraordinaire. L'Église, d'ailleurs même, si l'Église est une représentation visible et humaine du royaume, si l'Église pouvait être comparée à une salle des fêtes, eh bien ça me plairait. Et je trouve que voilà, l'Église est une gigantesque salle des fêtes, un endroit où on peut être heureux. Donc tant pis pour les esprits chagrins, dans ce temple, cet après-midi, les enfants joueront au football dans le chœur, eh bien les enfants vont rigoler, jouer à chat autour des bancs, eh bien l'Église, c'est la fête. Et ce n'est pas un lieu où l'on est compassé et terrorisé, c'est la joie et c'est la fête. Et tant pis pour les esprits chagrins, on fait la vente paroissiale dans le temple, on est heureux, on rencontre ses amis, on mange bien, on boit bien, ça aussi, c'est l'Église. Et personnellement, si tout le monde pouvait considérer l'Église comme une salle des fêtes, je n'en serais pas meurtri. Peut-être même qu'il faut arriver à comprendre que l'Église n'est pas un lieu de devoir, c'est pas un endroit où l'on va parce qu'on n'a rien de plus drôle à faire, mais que d'arriver à comprendre que l'Église, même quand on n'y fait pas des jeux, c'est un endroit de joie, de paix, de fête, de bonheur, d'approfondissement de son être et d'accomplissement. Alors, quelles sont les conditions pour bénéficier de toutes ces bonnes choses? Eh bien, là encore, bouleversement extraordinaire. Et qui, bon, quand on le dit, ça semble évident, mais je crois que c'est bon de le redire, parce que là encore, la prédication chrétienne n'a pas toujours été dans ce sens. Quelle est la condition pour faire partie de cette communauté de joie et de fête? Est-ce la perfection morale? Eh bien non, bien sûr. Invite tout le monde, bon et mauvais. Cela dit, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'on voit quand même qu'au départ, Dieu invite quand même les meilleurs, en quelque sorte. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas un grand banquet en disant « Allez, venez tous, qui que vous soyez, c'est sympathique, j'accueille tout le monde. » Il commence par inviter ceux pour qui ça a été préparé. Et il n'invitera les autres qu'après. Et donc on voit qu'il y a quand même une hiérarchie dans ce monde. Certes, tout le monde sera invité dans la joie du Seigneur, mais a priori, la joie du Seigneur, c'est quand même plutôt pour ceux à qui ça a été préparé, c'est-à-dire plutôt pour ceux qui, je le pense, ont bien accompli la loi du Seigneur, c'est-à-dire ont vécu correctement, bien droitement, honnêtement, justement, moralement, en quelque sorte. Et donc, il y a quand même, je dirais, des premiers et des derniers. Je ne pense pas que Dieu se fiche totalement du fait que l'on soit juste ou pas juste. Certainement que Dieu aime quand même mieux qu'on soit honnête et généreux avec notre prochain, plutôt qu'on ne le soit pas. Mais cela dit, on va voir que finalement, il y aura un renversement. Ceux qui, a priori, étaient les meilleurs pour ce qui est d'un jugement immédiat et humain, seront dévalorisés et même punis. Et finalement, c'est les médiocres qui seront récompensés. Ce qui nous montre que ce qui compte, ce n'est pas l'appartenance à la bonne religion, ce n'est pas même tellement les bonnes mœurs, ce n'est pas tellement non plus la bonne moralité, mais qu'il y a quelque chose d'encore plus important que le bon comportement moral, en quelque sorte. Il y a quelque chose de plus essentiel et de tellement important que ça peut même complètement renverser les choses. Ça, on y est habitué. Le Christ lui-même dira aux pharisiens, qui étaient les professionnels de la bonne morale et des bonnes mœurs, en disant, vous savez, beaucoup des prostituées et des péagers vous précéderont dans le royaume de Dieu. Beaucoup, pas tous, mais beaucoup. Et au nom de quoi? Eh bien, parce que la vraie condition, ce n'est pas d'être bien, sous tout rapport, mais c'est d'accepter d'y aller. La vraie condition, c'est d'entendre un appel. La vraie condition, c'est d'être à l'écoute, d'avoir une certaine disponibilité. Et la seule chose, je dirais, impardonnable, c'est d'être centré sur soi-même. Oui, même si vous ne faites de mal à personne, vous ne tuez personne, vous ne trompez pas votre femme ou votre mari, vous ne volez rien, vous ne mentez jamais, etc. Ça, c'est très bien, c'est formidable, Dieu est très très content, tout le monde est très content, mais la seule chose grave, c'est d'être centré sur soi-même et de ne faire les choses que par rapport à soi-même. Il y a quelque chose d'encore plus important que de ne pas mentir, c'est d'être ouvert à l'écoute des autres et d'être capable de savoir que l'on peut se déplacer soi-même. Et donc les œuvres qui sauvent ne sont pas celles qu'on croit. Les œuvres qui sauvent, c'est justement, je dirais, d'entendre l'appel d'un plus grand que soi et d'accepter d'être l'invité d'une réalité qui nous dépasse, sans prétendre tout faire par rapport à son propre plaisir. L'explication qu'on donne d'habitude et qui plaît bien, c'est la suivante, de dire « Dieu appelle tout le monde à son salut, mais finalement ne seront sauvés que ceux qui accepteront cet appel. » Dieu accepte tout le monde, mais ne seront acceptés que ceux qui entendent cet appel. Le salut est offert à tous, mais encore faut-il l'accepter dans la foi pour qu'il devienne efficient. Et c'est même très fort, puisque les premiers invités, dont on nous dit qu'ils étaient tous des gens très bien, finalement la parabole dit que, en fin de compte, ils n'étaient pas dignes. C'est-à-dire qu'il leur manquait quelque chose de très grave. Quelle dignité ! Non pas d'être bien moral, mais d'accepter de recevoir quelque chose de l'extérieur. Donc vous voyez que ça change complètement les valeurs du jugement. C'est même presque, je dirais, dangereux de remettre tellement en cause la bonne moralité. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'important dans le fait d'entendre cet appel au banquet ? Eh bien, il y a plusieurs choses qui sont, à mon avis, justement, les choses essentielles pour bien vivre. Et si on n'entend pas cet appel, on s'exclut soi-même du bonheur et de la vie. C'est d'entendre que l'on est appelé à rentrer dans une noce, dans un banquet. Alors qu'est-ce qu'il y a dans un banquet ? Je crois qu'il y a deux choses, peut-être trois. Il y a la fête et il y a la relation. C'est-à-dire que dans un banquet, il y a la joie. Donc accepter d'entrer dans la joie, ça n'est déjà pas si simple. Et l'autre chose, c'est que dans une salle de noces, il y a beaucoup de monde. Et donc il faut accepter d'entrer en relation avec d'autres gens, ce qui n'est pas simple non plus, et accepter d'entrer en relation avec celui qui invite, c'est-à-dire Dieu. Et du coup, voilà les conditions essentielles et fondamentales. La première, c'est d'accepter d'être joyeux, accepter d'être invité. Et donc, il faut faire fi, je dirais, des scrupules intégristes, qui sont de toujours faire le bien, d'essayer de faire ce qu'il faut, de faire plus, encore mieux, et de ne pas pécher, etc. Non, la seule chose qu'on nous demande, c'est de vivre joyeux. Et donc, première chose, mes amis, vous êtes invités, on vous offre la vie, profitez-en. La seule chose grave, c'est de refuser la grâce, de refuser les chances, de refuser les joies qui vous sont données, de refuser d'être heureux pour une raison ou pour une autre. Dieu vous invite à être heureux. Il vous donne plein de choses dans votre vie pour être heureux, mais profitez-en, bon sang. Soyez heureux, soyez joyeux, soyez reconnaissants, sentez-vous libre, sentez-vous à la fête. Première chose, les autres ont refusé cela pour faire leur commerce, pour faire leur travail, pour faire leur devoir, pour faire je ne sais quoi. On vous invite à être joyeux, laissez vos soucis et soyez joyeux. Ça, c'est absolument fondamental. Et je crois que le commandement ultime qui sera donné dans une autre parabole, qui est celle des talents, c'est le maître qui dit au serviteur « Entre dans la joie de ton maître ». Trop de protestants ne savent pas ça. Et trop de protestants ne savent pas être joyeux, ne savent pas profiter de leur chance, ou vivent chaque chance comme une culpabilité, en disant « Ah mais moi j'ai cette chance, les autres l'ont pas, comment puis-je en profiter ?» Eh bien vous avez un lit moelleux, dormez dedans, ne dormez pas par terre exprès en pensant aux gens qui n'ont pas de lit, ça ne sert à rien. Offrez des bons lits à ceux qui n'en ont pas si vous voulez, mais profitez déjà du vôtre, sinon c'est même une insulte à ceux qui n'en ont pas, je dirais. Et donc de ce côté-là, je crois que si Calvin n'était pas très rigolo, Jésus n'était pas un triste sire, et Luther encore moins, donc je serais plus luthérien que calviniste. La deuxième chose, c'est d'accepter d'entrer en relation avec les autres. Effectivement, on ne reste pas seul. Et si on reste seul, eh bien, on crève tout seul. Et donc, il faut accepter d'entrer dans la salle. Mais ce n'est pas si simple. Parce que dans la salle, il y a plein de gens que je ne connais pas. Et puis d'abord, est-ce qu'ils sont tous bien, de bonne famille, bien élevés, bien gentils? Non, on a invité tout le monde, même ceux qui étaient au coin des rues. Ah, ça ne me convient pas trop. Eh bien voilà, la deuxième chose, c'est question de survie. J'accepte d'aller dans la fête avec tout le monde, sinon je m'exclus moi-même dans les ténèbres du dehors. Et puis enfin, d'accepter d'entrer en relation avec Dieu, c'est-à-dire celui qui invite. Il faut aimer Dieu et aimer son prochain, et peut-être même plus accepter de devenir soi-même l'époux, c'est-à-dire de s'unir à Jésus-Christ, au sens mystique. Et même si on est dans la noce et qu'on n'est pas l'époux, eh bien, ça c'est intéressant aussi, on peut rentrer dans l'Église, même si soi-même on ne vit pas cette communion extraordinaire avec Dieu, on peut être un invité de la noce. Et on regarde les mariés qui sont tout heureux et tout contents, eh bien c'est déjà pas mal. Et on participe d'une certaine manière à la joie de la communion mystique. Bon, tout ça c'est pas mal quand même. Mais vous me direz que je n'ai pas abordé de front les questions délicates qui sont les punitions. Sur les punitions, je ne les ai pas abordées parce que en fait c'est très simple à mon avis. Les punitions de Dieu, bon, deux façons de les lire. La première, c'est de dire, c'est un petit peu ce que j'ai fait jusqu'à présent, ce ne sont pas des punitions de Dieu, ce sont des conséquences. Si on s'exclut soi-même, on est automatiquement exclu. Si on refuse la joie, on est condamné à la tristesse. Et donc, ce ne sont pas des punitions, mais simplement, ça montre les conséquences inéluctables du fait de ne pas entendre cet appel à la noce. Voilà. Donc, c'est tout. C'est très simple. Ou alors, autre solution plus subtile, c'est de dire quand on regarde, mais toujours pareil, qui sont les bons, qui sont les mauvais. Alors moi, dans ma tête, j'ai des idées. Ah oui, ça, un tel, ça, c'est sûrement un méchant, un mauvais, je comprends qu'il soit dans les ténèbres. Moi, j'écoute l'accueil, donc je suis sauvé. C'est plus compliqué que ça, bien sûr. Personne n'est totalement mauvais et totalement bon. Il y a en moi une part qui accepte l'appel et une part qui la refuse. Donc finalement, je suis moi-même un petit peu écartelé. Et du coup, on peut dire que cette condamnation terrible de détruire les mauvais, ce n'est pas de détruire ceux qui sont mauvais, mais de détruire le mauvais qui est en moi. Et donc, tout ce qui en moi refuse l'appel de Dieu, tout ce qui est en moi est égoïste, tout ce qui est en moi est triste, eh bien, tout cela, Dieu le jette dehors, dans les ténèbres, et il le brûle. Eh bien, tant mieux, merci Seigneur. Donc, ça n'est pas une punition ni une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Dieu accueille le meilleur de moi-même, c'est ça qu'il sauve. Tout ce qui est en moi dit oui au Seigneur, c'est sauvé dans la joie, et tout le reste, c'est brûlé, mis dehors, on n'en tient pas compte. Donc, finalement, je ne vois pas du tout le problème de ces punitions. Alors, vous me direz, si, il reste quand même la question de l'habit de noces. C'est vrai, c'est pas très juste, hein. Ce pauvre gars qui n'a rien demandé à personne, on vient le chercher, on le met dans les noces, après le maître arrive, il n'a pas l'habit et il le fiche dehors. Ça, c'est très étonnant. C'est tellement étonnant que dans la version de Luc, de la même parabole, ça ne s'y trouve pas. Alors, traîne un peu partout une explication qui est la suivante. C'est celle que tous les commentateurs donnent aujourd'hui, et je vous la livre. Elle est très bien parce qu'elle résout tout. C'est de dire le vêtement de noces n'était pas du tout quelque chose que devait apporter l'invité, mais il était offert à l'entrée. C'est-à-dire que on dit que c'était la coutume en Orient, les gens étaient invités à une fête et comme ils étaient pleins de poussière par le voyage, eh bien à l'entrée il y avait un grand vestiaire et le maître qui invitait devait fournir aux invités des habits de noces. Donc il avait un portant avec plein de belles robes blanches, et dès que quelqu'un arrivait, il lui remettait une robe, la personne remettait la robe, et il allait dans la noce. Cela veut dire que la robe et l'habit de noces étaient offerts, et que par conséquent, le pauvre R en question n'avait aucune excuse de ne pas avoir d'habit de noces, puisqu'on ne lui demandait pas de l'avoir par avance, mais simplement, il est entré comme ça en refusant de vêtir l'habit de noces. Et ça a évidemment une signification très belle. C'est que finalement, revêtir l'habit de noces, c'est vu comme le fait d'accepter la grâce. En effet, nous sommes invités gratuitement. Très bien, eh bien vous entrez. La question ensuite, c'est non pas d'avoir la grâce, puisque tout le monde, elle est donnée à tout le monde, on le dit bien, bons et mauvais. La question, c'est de rester dans la grâce. Or là, on voit un mauvais usage de la grâce, qui consiste à être un profiteur de la grâce. On lui invite, on lui propose de venir au banquet, il y va pour manger à l'œil, mais il refuse de revêtir l'habit de noces, c'est-à-dire il refuse de jouer le jeu de cette grâce, et il ne fait de la grâce que quelque chose pour en profiter, si vous voulez. Et ça, ça n'est pas bien. On a d'ailleurs reproché parfois à la théologie calviniste de dire « c'est un peu facile, vous dites que tout le monde est sauvé par grâce, mais à ce moment-là, on peut faire n'importe quoi, on peut en profiter ». Cette parabole donnerait une réponse. La grâce est bien offerte à tout le monde, le problème, ce n'est pas d'avoir la grâce, c'est d'y rester. Et pour rester dans la grâce, il faut, d'une certaine manière, faire de cette grâce le principe même de son existence. Et il faut accepter la grâce comme la logique de sa vie, faire de cette grâce le but, le cœur de sa façon d'être, et accepter de s'habiller en grâce, en quelque sorte. Et donc la grâce, il faut l'accepter non seulement pour ce que ça nous apporte, d'être au banquet gratos, quoi, mais en plus d'accepter la logique de cette grâce. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui est assez intéressant. Donc le mauvais serviteur n'a pas voulu jouer le jeu de cette grâce, s'en revêtir, en faire le système même de sa propre vie, et donc il s'exclut lui-même du système de la grâce, parce que la grâce, c'est une logique d'existence. C'est la même chose pour le pardon. Dieu nous pardonne, mais le pardon, si on l'accepte de Dieu, c'est pour faire du pardon une logique d'existence, où on est dans la logique du pardon, où on ne l'est pas. Et si on ne pardonne pas soi-même, ce n'est pas que Dieu ne nous pardonne pas, mais c'est qu'on risque de perdre ce pardon, parce que le pardon, c'est une logique. C'est un tout dans l'existence. La grâce est offerte à tous, ce n'est pas un problème, et il n'y a pas de condition. Encore faut-il, vous disais-je, y rester, et pour ça, il faut l'accepter comme un système. Alors donc, la première chose, on accepte d'y entrer, et après, il faut, d'une certaine manière, accepter de se mettre en conformité à ça. C'est d'ailleurs dans ce sens que sont faits les statuts de l'Association cultuelle de l'Étoile et de toute Église réformée, où l'on ne dit pas que pour faire partie de l'Église, il faille être bon, cotiser à l'Église, participer aux œuvres. On dit tout le monde qui reconnaît que Jésus-Christ est le Seigneur peut faire partie de la paroisse de l'Étoile, par exemple. Et on ne demande même pas d'être baptisé pour faire partie de l'Église protestante. Mais les statuts disent, cela dit, quelqu'un qui en fait partie, ça serait bien ensuite quand même qu'il se fasse baptiser et qu'il participe aux œuvres et au fonctionnement de l'Église. Parce que sinon, d'une certaine manière, on ne peut pas jouer sur tous les tableaux à la fois. Alors cette solution est évidemment très belle et très bonne, parce qu'une fois de plus, elle arrange tout. Simplement, il y a quelque chose qui me pose problème là-dedans. D'abord, je trouve que la solution est un peu trop belle et trop simple. Finalement, ça arrange tout, la parabole devient simple et claire, il n'y a plus aucun problème, tout est lumineux, pacifiant, agréable et bon. Et la solution est un peu trop simple, je dirais. Et d'autre part, on entend tous les prédicateurs, tous les commentateurs nous sortent cette histoire de vêtements offerts à l'entrée. Tout le monde dit « la coutume était dans l'Orient ancien de ceci, cela ». Je n'ai jamais vu personne, et j'ai cherché une heure sur Internet l'autre jour, personne ne cite ses sources. Ce n'est dit nulle part, cette histoire. Et je me demande s'il n'y a pas eu une fois un prédicateur astucieux qui a inventé ça, et que du coup tout le monde s'en empare en disant « mais oui, j'ai entendu dire que, donc c'est évident, la robe était offerte, donc il n'y a plus de problème. » Ben peut-être, c'est peut-être vrai, mais si ça se trouve, ça n'est pas vrai. Et donc on n'en sait rien. Et cette façon d'aplatir la parabole pour la rendre simple me déplaît. Et donc je me demande si en fait, justement, il ne faudrait pas faire abstraction de cette explication et se dire est-ce que la solution n'est pas ailleurs ? Et que précisément, le roi demande au serviteur, enfin à l'invité, il lui demande quelque chose d'impossible. Le pauvre bonhomme, il ne pouvait pas avoir de robe parce qu'il est pauvre. Et donc, garder le côté, je dirais, scandaleux, difficile, inacceptable de cette parabole. Et du coup, se dire quoi ? Se dire que, Finalement, s'il est jeté dehors, si on lit bien, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la robe. C'est parce que le maître lui dit « Mais pourquoi tu n'as pas la robe ?» Et lui ne répond rien. C'est pour ça qu'il est jeté dehors. Alors, ça veut dire que, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Eh bien, peut-être qu'il aurait dû demander pardon, peut-être. Peut-être qu'il aurait dû dire « Mais oui, Seigneur, mais moi je suis pauvre, je n'en ai pas. » Et le maître l'aurait laissé dedans. Peut-être que justement, être en tort, c'est grave en soi. Mais ce qui est fondamentalement inacceptable, c'est de ne pas reconnaître son tort, c'est de ne pas confesser son péché, c'est de ne pas l'assumer, c'est de ne rien dire et de rester comme ça, sans explication, sans parler, c'est-à-dire sans entrer en relation avec le roi. C'est-à-dire que ce qui est inacceptable et impardonnable, c'est d'avoir refusé de communiquer avec Dieu. Et à ce moment-là, si on refuse de communiquer, tout devient impardonnable, je dirais. Donc oui, il ne pouvait pas avoir de robe, c'est vrai, et ce n'est pas de sa faute, mais il aurait dû le dire, il aurait dû demander pardon à Dieu et à ses frères, plutôt que de se taire et de ne rien dire. Ça, c'est la seule chose impardonnable, c'est de ne rien dire. Ou alors, de se dire qu'en fait, évidemment, vous savez, cette parabole n'est qu'une image d'une réalité spirituelle. Et si un pauvre gueux ne peut pas avoir de robe de noces, spirituellement, nous pouvons tous, nous, avoir une robe de noces, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est abordable pour nous. La robe de noces, c'est quoi, si on réfléchit? C'est un habit qui sert simplement à se faire beau et à ne rien faire. À part ça, on a quoi? On a une tenue de travail, on a un vêtement de marche pour venir. Et ce que nous dit Dieu, c'est qu'il faut savoir, et ça c'est absolument indispensable, de temps en temps, retirer sa tenue de travail pour passer un vêtement de noces. Sinon, on passe à côté de l'essentiel. Il faut savoir, à un moment donné, revêtir autre chose, se mettre un vêtement pour la fête, s'habiller beau pour Dieu, mais intérieurement, je dirais. On ne nous demande pas d'être beau, on ne nous demande pas d'être bon, on nous demande d'accepter de revêtir, au moins momentanément et de temps en temps, un vêtement de lumière, de blancheur, de beauté, d'amour et de pardon. Et si vous refusez toujours de revêtir ça, c'est quand même très embêtant. Il faut revêtir autre chose que son vêtement de travail. Ça, c'est le commandement du sabbat. Tu travailleras tout le temps. Eh bien, de temps en temps, enlève ton habit de travail et fais-toi beau pour Dieu. Ça, tout le monde peut le faire. Et c'est très grave de ne pas le faire, parce qu'on s'exclut soi-même de la joie et de la fête. Et puis, de temps en temps, il faut aussi mettre un habit qui ne sert à rien, mais qui est beau. Et donc, il faut garder dans sa vie, justement, du temps pour le rien, du temps pour ne rien faire, du temps pour être beau, du temps pour être avec les autres, du temps pour se réjouir, du temps pour profiter, du temps pour entrer en relation avec les autres et avec Dieu. Le vêtement de noces, ce n'est pas un vêtement de travail ou de marche. L'Église, le royaume de Dieu, c'est peut-être justement un lieu où l'on ne fait rien. C'est un lieu où on se repose du chemin, un lieu où on se repose du travail. C'est juste un endroit, cette présence de Dieu, où l'on est invité à savourer sa joie. Et heureux celui qui saura concevoir sa propre religion comme cela. L'Église, la présence de Dieu, la foi, c'est un lieu où l'on se repose de son travail, où l'on se repose de ses peines et où l'on se repose de ses labeurs. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il y a beaucoup de gens qui savent travailler, beaucoup de gens qui savent marcher, qui savent œuvrer, qui savent faire des choses, mais très peu qui ne savent ne rien faire pour simplement partager la joie de leur maître, avec leur maître et avec les autres. Amen.